Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Cowork pour cette nouvelle émission Objectif Startup. Vous le savez, chaque semaine, je reçois des entrepreneurs, des fondateurs de startups. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sur mon plateau Lucien Derry. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
CTO et cofondateur de Digitevent.
Tout à fait.
Alors Digitevent, qui est une plateforme SaaS, un outil complet pour gérer, on en a beaucoup parlé l'année dernière et en 2020, les invitations, les inscriptions, les participants des événements qu'on veut organiser en physique ou virtuel.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Alors, expliquez-nous un petit peu.
Ouais, donc on a cofondé Digitevent en 2013.
Donc bien avant.
Bien avant le Covid, on a connu l'ère du présentiel et même une époque où les événements virtuels n'existaient tout simplement pas. Et en fait, la mission de Digitevent, c'est proposer les outils pour aider les organisateurs à gérer de meilleurs événements. Donc ça, c'est la mission générale et elle s'applique évidemment tout autant aux événements présentiels, virtuels ou hybrides. Comme c'est beaucoup d'actualité en cette rentrée.
D'accord. Et alors, donc j'imagine qu'à l'époque, vous le disiez, les événements virtuels n'existaient quasiment pas. Ça se faisait très peu. Vous avez switché totalement, je pense, pendant le premier confinement. Comment ça s'est passé ?
Ouais, tout à fait. Historiquement, les fonctionnalités de la plateforme, les fonctionnalités phares, quand on a créé le produit en 2013, c'était vraiment... L'objectif, c'était de regrouper toute une panoplie d'outils qu'utilisaient en général les event managers dans un seul outil commun. Donc typiquement, ils utilisaient Excel pour gérer leur base de contact, ils allaient utiliser MailChimp pour envoyer des mails, ils allaient utiliser Google Form pour faire le formulaire d'inscription. Et nous, on s'est dit, bon, en fait, on va faire un outil magnifique dans lequel ils vont pouvoir tout utiliser et on va pouvoir créer des synergies entre les fonctionnalités pour que l'expérience globale soit harmonieuse. Donc ça, c'est vraiment le projet de base. Et évidemment, ça a complètement pivoté en 2020, puisque cataclysme de mars 2020. On a commencé à nous interroger en fait, sur énormément de fonctionnalités d'événements live. Et heureusement, on avait la structure qui pouvait abriter en fait, ces nouvelles fonctionnalités. Je vous expliquerai plus tard comment. Mais donc, on a fait un pivot stratégique énorme du jour au lendemain. C'était une époque... un moment complètement incroyable.
Et alors, justement, ce switch, ce changement, ça a été rapide, ça a été, comment ça s'est passé ?
Ouais, je me rappelle très bien, 20 février, on commence à voir qu'en Italie, l'épidémie prend, et là, on se dit, oh là, ça va être chaud. Mars, on avait beaucoup d'événements, on a un carnet de commandes plein, on se dit, ça va pas... je sens qu'on va rentrer le lundi au bureau et ça va être chaud. On arrive le lundi 21-22 février, et là, le drame annoncé. Chaque minute, un appel qui sonne, « Ah, j'annule ou je déplace mon événement. »
Ah oui.
Donc, on s'est retrouvés.
C'était quoi ? C'était des team building
Non. Alors,
c'était quoi comme événement ?
Nous, on opère uniquement sur des événements pro.
Ouais.
Nos clients, ce sont des organisateurs qui vont organiser des événements de 100 à 5000 personnes. Ça peut être des événements
de com
interne. Non, que en B2B.
En B2B.
Ça peut être de la com interne, EDF qui organise un meeting manager de 300 ouais. personnes. Ça peut être de la com externe. Peugeot qui lance un nouveau véhicule et qui va inviter 400 journalistes pour faire un grand opening. Ça peut être du salon de la rencontre professionnelle. Ça peut être exemple la REF, on a fait connaissance ouais. il y a un petit mois maintenant. Ça peut être un événement comme ça. C'est vraiment de l'event pro entre 100 et 3000 personnes. Ah, ça, c'est le cœur de métier.
Donc là, vous êtes mi-février, c'est ça ?
On est fin février. Tout s'annule.
Tout s'annule. Pourquoi ? Parce que vos clients avaient peur.
Peur, responsabilité vis-à-vis des invités, responsabilité vis-à-vis des collaborateurs qui sont invités à l'événement. Donc, annulation soudaine. Là, réunion de crise avec Jonathan Astruc, mon associé. On step back et on dit, OK, bon, bah là, comment on gère ça ? Grosse réflexion stratégique d'un mois. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on voit avec le recul, donc on sait ce qui s'est passé. Mais quand on est en fait, en mars 2020. On sait juste qu'il ne se passe rien. On n'en a aucune idée. On ne sait pas si le Covid tue tout le monde, va durer 2 mois, va durer 5 ans, s'il va y avoir un vaccin, pas de vaccin. Donc, on est dans un flou complet. Et on prend le virage à ce moment-là du digital et on se dit, bon, on va mettre en pause. On avait des gros développements à l'époque, notamment sur des solutions de contrôle d'accès complètement revisitées. Donc, on met en pause tout ça et on se dit qu'on focus tout pour pouvoir permettre une solution d'événements hybrides pour la fin du confinement.
Et du coup, là, tous les événements qui étaient prévus dans les mois à venir, vous vous dites, bah, il va falloir trouver une solution pour chaque événement. Comment ça s'est passé?
Non,
tout a été annulé.
Oui, de toute façon, les clients ne savaient même pas ce qu'ils voulaient faire. Les événements, ouais. Ils étaient soit annulés, soit reportés, sans
même savoir,
sans visibilité. Ouais. Par contre, ce que nous, on voulait être capable de faire, c'est qu'au retour, on voulait pouvoir appeler nos clients en disant, vous savez quoi?
On
a une alternative.
Ouais.
Et on a quelque chose qui sera qualitatif, qui sera différent. Mais il y aura une valeur ajoutée, il y aura une valeur à cet événement et on peut vous proposer cette expérience, mais il fallait rééduquer complètement le marché. On a été appelé mai, juin, juillet et à la rentrée, on a été appelé en permanence par des gens qui demandaient juste, mais en fait, comment faire? Qu'est-ce que c'est qu'un événement virtuel?
Ouais.
On l'oublie aujourd'hui, mais ça a été...
Mais c'est vrai qu'on a tous appris, mais c'est comme le télétravail en fait, appris ce que c'était. Hein. La plupart des Français ne connaissaient pas, ou peu, le télétravail en tout cas.
C'est ça. Et nous, en tant que plateforme, en fait, ils se tournaient vers nous pour dire, bon, ok, mais en fait, comment je fais maintenant? Et donc, on devait leur apporter cette solution. Et on a développé en quelques mois, je vous dis honnêtement, on a fait le travail et là, on a pris 5 ans d'expérience en quelques mois et on est arrivé avec une suite complète qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment capable de proposer la même expérience en présentiel et en virtuel.
Et donc, qu'est-ce que vous proposiez comme alternative, justement, en événement virtuel, par exemple?
Ouais. Alors, tout d'abord, on avait une partie de nos événements qui étaient des rencontres d'affaires, des rencontres professionnelles.
Ouais.
Donc, on a développé une plateforme de matchmaking. On a adapté, on avait déjà une plateforme de matchmaking et on a adapté toute la partie gestion one-on-one pour que les rendez-vous se fassent en visio. Donc on a développé cette brique avec tout ce qui va avec, au niveau des statistiques, au niveau du reporting pour le client, pour allouer les bons créneaux horaires, etc. Donc on a développé toute cette suite pour que la gestion de rendez-vous d'affaires qui se faisait en présentiel, puis se fait en virtuel. Ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on a dû trouver une solution pour que tous les événements, enfin tous les clients qui avaient des licences avec Zoom, avec Teams, avec toutes sortes d'outils, puissent conserver leur
licence
et utiliser cette licence dans le cadre d'un événement dont la plateforme était DigitEvent. Donc on a rendu tout ça possible.
Ça a été compliqué à faire?
Ça a été intense. Je ne sais pas si ça a été compliqué, mais en tout cas, ça nous a mobilisés à 200%. Après, on s'est dépassé. Donc, vous savez, parfois, quand on est dans l'effort et dans le tunnel, on ne réfléchit pas si c'est compliqué ou pas. On l'a fait parce qu'on était aussi hyper excités de développer quelque chose de nouveau. Il y avait une valeur qui était énorme, une attente énorme, une valeur énorme du produit qu'on était en train de créer. Donc, on n'a pas ressenti la difficulté, en tout cas. Mais ça a été passionnant. Ça a été passionnant. Et puis la troisième brique, c'était d'être capable de proposer aussi aux clients qui, eux, n'avaient pas forcément d'outils de webinaire en place, de leur proposer de l'utiliser, de le faire directement dans DigitEvent.
Oui,
sur la plateforme. Ouais, tout à fait.
Vous avez recruté pendant ce confinement? Comment ça s'est passé
Alors, on était en plein recrutement en début 2020.
Avant donc, 2020, la pandémie?
Complètement. On a tout gelé. En mars. En fait, on s'est retrouvé face à un dilemme, mais extrêmement rapidement, qui était de dire, si on interrompt le lien avec nos clients, si on n'a plus ce lien commercial, en fait, nos clients, ils vont aller faire de la veille ailleurs, ou alors, ils vont pas penser à nous solliciter, parce que naturellement, ils ne savent pas forcément qu'on peut être la référence dans ce domaine-là. Donc, on n'a pas pu du tout se séparer d'équipe. Bien au contraire, on a dû être au contact des clients. Et puis, pareil sur la partie R&D, où au niveau des ingénieurs, on a dû recruter pour développer, pour adapter le produit. Donc, en fait, on a cessé de recruter. On n'a pas cessé de recruter depuis mars 2020. On a mis en pause un tout petit peu au début au niveau de la gestion de projet, parce qu'en opérationnel, il y avait moins de flux, notamment sur les événements. Et puis ensuite, à partir d'octobre-novembre, on s'est remis à recruter vraiment partout. Et là, pour être hyper concret, début septembre, donc il y a un petit mois, on a fait un onboarding, on a recruté 7 personnes.
Donc aujourd'hui, vous êtes combien ?
Aujourd'hui, on est une trentaine, avec des bureaux à Paris et à Sao Paulo.
D'accord. Pourquoi Sao Paulo ?
Alors, si je le dis, je vais me décrédibiliser complètement. Notre premier employé a décidé de se marier avec une Brésilienne.
D'accord.
Et il voulait absolument rester dans l'aventure DigitEvent. Et puis, il avait une maîtrise complète à la fois de l'outil et puis une maîtrise commerciale. Et donc, il a ouvert un bureau de distribution en 2018 au Brésil.
C'est génial.
Voilà. Ouais, d'un point de vue modèle stratégique, je ne sais pas si... Si c'est comme ça qu'on ouvre une filière, mais en tout cas, ça c'est une filière, mais ça s'est très bien passé et on a eu probablement beaucoup de chance, mais c'est assez exceptionnel.
Et du coup, au Brésil, ça marche ?
Au Brésil, ça marche. Un petit peu plus dur avec le Covid.
Oui,
en fait, ils ont eu un décollage fulgurant quand on a ouvert le bureau, et un petit peu plus compliqué parce que c'est un marché qui est très différent de la France, ils étaient très exposés au contrôle d'accès et le contrôle d'accès en revanche a été complètement interrompu, donc ça a été un petit peu plus compliqué. On avait un peu de mal aussi à développer des solutions de billetterie locale parce qu'ils utilisent des choses complètement différentes de ce qu'on a en Europe.
D'accord.
Ça s'appelle les boletos. S'il y a des Brésiliens qui nous écoutent, il n'y a qu'eux qui connaissent ça sur Terre. Voilà. Mais donc il y a une reprise qui est très très importante, mais en 2021, mais ils ont une année 2020 un petit peu dure. Mais bon, c'est comme ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est bien.
Tout à fait. Et là, vous envisagez d'ouvrir d'autres antennes dans d'autres pays ?
Oui, on a envie tout à fait, sur un modèle un peu différent, puisqu'en fait, on est sur des modèles de distributeurs, on est en pourparlers, pour ouvrir certains pays, avec des bureaux qui sont déjà sur place, et en fait, vraiment avec une optique de distribution. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a fait avec le Brésil, on a tout fait de zéro en propre.
Ce sera plus facile, là, du coup.
Ouais, en tout cas, on mettra un peu. Ça, c'est une façon aussi de partir avec un petit peu plus de moyens et puis aussi d'avoir une expertise du marché local.
Terrain,
on avait la chance
de
l'avoir au Brésil un petit peu par hasard, mais on pourrait difficilement le faire dans d'autres marchés parce que on n'a pas des collaborateurs qui se sont mariés avec.
et du coup, alors, vous visez quel pays, en Europe ou
ouais,
un peu plus loin?
Pour le moment, l'Europe.
Ouais.
On a des pistes un petit peu avancées en Italie, en Belgique.
D'accord.
Voilà. Mais à ce stade, c'est pas concrétisé.
D'accord. Donc là, comment ça s'est passé en fait donc pendant le confinement, est-ce que vous avez eu peur à un moment de la concurrence parce que il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont digitalisées. Il y en a eu beaucoup qui ont fait ça. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que comment vous avez fait pour rester leader, pour vous différencier, pour
Peur, pas du tout, parce qu'on est dans un positionnement qui est différent. On n'est pas une agence, on est vraiment une plateforme, on a un outil SaaS. Et donc on n'était pas du tout en concurrence avec certaines agences qui en fait, même quand eux digitalisaient, ou même certains clients qui, quand eux digitalisaient, avaient toujours besoin d'outils comme les nôtres. Donc sur ça, on était assez serein et on avait cette avance technologique. En revanche, là où on a eu une pression et où ça a été absolument génial, c'est que, en fait, du jour au lendemain, non seulement on avait perdu 80% d'un marché, du marché présentiel, mais par contre, il y avait un nouveau marché qui était vide, ou quasi vide. Et donc, en fait, on a retrouvé certaines dynamiques, une énergie presque des débuts, où on dit, mais en fait, ce marché, il y a tout à faire. Et pour une startup, c'est super excitant. Et j'en connais pas beaucoup qui ont eu à vivre ça deux fois dans la même startup. Donc c'est...
Ouais. Ah oui, vous avez vraiment vécu ça comme un renouveau.
Ah ben complètement. Il y avait une nouvelle offre à faire, réexpliquer aux clients comment ça fonctionne, des nouveaux outils à développer et à intégrer pour le rendre cohérent avec l'existant. Mais le discours et l'offre et la valeur qui a été vendue, elle était nouvelle. Puisqu'en fait le besoin était différent. Alors de façon ultime, c'est toujours réunir des participants, délivrer du contenu et créer une expérience. Mais la modalité étant tellement différente que c'était presque un nouveau marché. Et d'ailleurs, on a eu une acquisition folle auprès de personnes qui n'étaient pas nos clients auparavant.
Oui. Et aujourd'hui, alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Hein, comment ça se passe au niveau... vos clients demandent quoi? Plutôt les événements reprennent, là. On le voit, bon, il y a eu la REF en septembre, fin août. Comment ça se passe, là? Est-ce que les entreprises ont besoin de contact à nouveau? Est-ce qu'on vous demande encore des événements digitaux?
Oui. Alors, j'ai une blague de mon associé qui me disait, Lucien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Il me disait il y a quelques semaines. Il me dit, la mauvaise, c'est qu'on a plein d'annulations. Il me dit, la bonne, c'est qu'en fait, c'est des événements virtuels qui redeviennent des événements physiques. Donc, il y a clairement une tendance et une envie des organisateurs de recréer du lien et de recréer des expériences présentielles pour la majorité des organisateurs. Le virtuel fait le job, mais il y a une qualité relationnelle, il y a une qualité d'impact de l'événement présentiel qui est incomparable. La relation que vous arrivez à créer quand vous avez vu quelqu'un ne sera jamais la même que quand vous avez échangé sur une visio pendant quelques minutes. Après, au niveau du marché global, je pense qu'en post-Covid, on aura un phénomène un peu triple. Je pense que le marché de l'événementiel présentiel va un petit peu baisser, mais très peu. Je pense qu'on va se retrouver à 90% de l'activité qu'on avait avant. En revanche,
vous êtes optimiste.
Ouais, à moyen terme.
À moyen terme.
Ouais, je pense. Je pense que
les gens ont besoin là, peut-être.
Les gens ont besoin que la qualité de l'expérience n'est pas la même, que les marques ont besoin de laisser une empreinte et que beaucoup d'organisateurs. Retrouver le ROI qu'ils avaient sur leur événement présentiel. En revanche, le format virtuel, ça ne veut pas dire que le format virtuel va forcément disparaître, et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'événementiel au sens large. Je pense que dans les 10% d'événements présentiels qui vont disparaître, en réalité, ils vont certes être remplacés par d'événements virtuels, mais je pense que l'événement virtuel va faire plus que remplacer ça. Et en fait, il y aura une offre événementielle encore plus élargie. Il y aura juste différents formats plus adaptés en fonction du contexte et de la demande. Donc l'événement présentiel, il va globalement rester à peu près au niveau ou baisser un petit peu. Mais par contre, il va en effet y avoir l'offre virtuelle et elle va rester très probablement, mais pour différents usages et différents besoins.
Donc au final, ce sera plus d'événements.
Au final, je pense que ça sera plus d'événements avec une offre plus ciblée, plus segmentée pour chacun et pour chacun y trouve son compte.
C'est votre première expérience en tant qu'entrepreneur DigiEvent ou vous aviez déjà été entrepreneur avant ça?
Ouais. Alors on s'est connus avec Jonathan en cours d'entrepreneuriat à Dauphine et on a bossé un petit peu. On a monté notre première boîte en 2011 ensemble qui s'appelle Andiamo et qui existe toujours. Donc il fait de la loc de matériel informatique courte durée, principalement pour l'événementiel. Donc on a toujours Andiamo, on a également DigiEvent.
Vous l'avez gardé, vous l'avez pas.
C'est des équipes différentes, c'est des bureaux différents, c'est complètement parallèle, mais la structure existe toujours. Et on a monté également avec une personne extraordinaire qui s'appelle Nelson Moncorgé, qui était un ancien de chez nous également. Une agence dotée d'hôtesses, à la fois pour de l'événementiel, mais aussi pour de l'accueil en entreprise, en 2018. Et donc, on a également monté ce projet qui est génial et qui explose, honnêtement, actuellement. Il faut absolument que vous le rencontriez dans une prochaine épisode.
Avec plaisir.
Et donc, on a également ce projet qui s'appelle La Belle Équipe. Donc on a vraiment, je pense, l'amour de l'entrepreneuriat dans le groupe. Et ça fait vraiment partie de notre ADN.
Oui. Ouais. D'avoir une constellation de start-up.
Je sais pas, mais en fait, à chaque fois qu'on nous parle d'un projet, on a des étoiles dans les yeux et on aime ça. On aime les problématiques de l'entrepreneuriat, on aime les problématiques de l'entreprise. Et du coup, je pense que ça va nous coller à la peau un bon petit moment.
D'accord. D'autres envies, justement, une envie bien précise de monter un thème particulier.
Ouais, là, on est un peu à saturation en termes de temps.
Ouais.
Le Covid nous a bien occupés aussi, ouais. Je ne spoil pas et je viendrai vous en parler.
Avec plaisir, vous reviendrez sur le plateau. Justement, on va reparler là de DigiEvent. Pourquoi DigiEvent en fait? Pourquoi cette plateforme? Pourquoi Pourquoi un logiciel SaaS, enfin une plateforme SaaS, comment c'est venu? C'est en discutant, c'est...
Alors, comment c'est venu? C'est très drôle. À l'époque, dans Diamo, on a reçu une demande d'une concession Mercedes qui nous a dit, ah ben, moi j'ai besoin de louer du matériel. Il faut savoir qu'à cette époque, on disait oui à tout, on avait 23 ans. Rien ne nous arrêtait. On nous demandait d'aller faire un logiciel pour après-demain. On était partant pour absolument tout.
Et donc, c'était quoi ? C'était la fraîcheur de l'âge ?
Ouais, on était survitaminés. Je ne sais pas ce qu'on prenait au petit-déj, mais on était toujours très chaud. On l'est encore, hein, mais bon, le petit-déj ne suffit plus. Et donc, en fait, pour cette concession, c'est Mercedes, mais bon, moi, j'ai besoin de tablettes et j'ai besoin de réaliser un logiciel de check-in pour les hôtesses à l'accueil. Et donc, je parle avec Jonathan, je dis, bon, ce truc-là, c'est vraiment cool. Tu sais quoi, pour rigoler, je vais le faire et on va voir. Je prends la voiture de ma grand-mère, je prends 10 tablettes, je fais le logiciel. Moi, je suis le CTO de la boîte et j'avais toujours aimé coder depuis que j'ai 12-13 ans. Et puis je fais une V1. Et je pars au Havre faire l'inauguration de cette concession Mercedes. Et le truc cartonne. Je rentre à Paris, je dis, écoute, c'est vraiment canon. On était 2012 à cette époque. C'est vraiment canon. Il faut qu'on aille démarcher des agences d'hôtesses. Le lendemain, on envoie un mailing. On a 10 rendez-vous. On se rend compte que le produit est génial. Ah, et oui. De là, naît DigitEvent avec justement une structure complètement séparée. Donc, c'était le début de l'aventure et le coup d'envoi. Comme quoi, il faut toujours parfois explorer et prendre des risques, parfois juste pour s'amuser. Et on ne sait pas où ça nous mène. Mais je pense que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. C'est parfois une approche trop rationnelle et trop pragmatique. Ça empêche de découvrir certaines opportunités qui peuvent être a priori improbables. Ben aujourd'hui, on est 30 chez DigitEvent et c'est parce que j'ai pris ma voiture, ma grand-mère m'a prêté sa voiture ce jour-là.
Ouais. Est-ce que vous croyez au destin ?
Bien sûr.
Si. Moi, personnellement, j'y crois. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi croient au destin, en fait.
Le destin, il se provoque. Ouais. Mais il faut aller chercher sa bonne trajectoire.
Sortir de sa zone de confort.
Oui, bien sûr. C'est à chacun d'aller justement provoquer ce destin, d'aller provoquer ses rencontres, d'aller se challenger en permanence. Après, on ne peut pas savoir où on va. Mais on sait que si on y travaille dur et qu'on agite bien la marmite, quelque chose va en sortir. Et je pense qu'on peut dire que c'est ça le destin, c'est d'avoir tout fait pour que quelque chose arrive et en général ça arrive.
Mais du coup, être entrepreneur, ça demande un certain état d'esprit. Est-ce que tout le monde l'a ? Parce que les personnes pas très optimistes, qui font un peu la tête, un peu antipathiques, voilà, forcément on a moins, enfin les choses arrivent moins bien pour elles, moins vite, voire pas du tout.
Ouais, non, mais c'est sûr. Après, je pense que c'est pas que dans l'entrepreneuriat que les choses arrivent moins vite si vous êtes trop pessimiste ou antipathique. À l'extrême et après je pense que c'est une personnalité souriante, optimiste,
ouverte,
ça lui profitera à la fois dans l'entrepreneuriat mais aussi dans d'autres domaines que l'entrepreneuriat. Je pense que le vrai déterminant de l'entrepreneuriat, ce qu'il faut être prêt à accepter, c'est mon avis que les journées s'arrêtent jamais et d'avoir en permanence un cerveau qui fonctionne pour sa vie perso et un cerveau qui fonctionne pour sa vie professionnelle et ça c'est un vrai choix à faire.
Alors c'est quoi en fait un cerveau qui fonctionne ? C'est quoi ? C'est savoir séparer ?
Non, c'est justement quelque part, vous avez, enfin moi en tout cas à titre personnel, votre vie professionnelle et votre vie privée, elles sont malheureusement ou heureusement, elles sont souvent mêlées. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de profiter d'un moment privé, évidemment, mais ça veut dire que vous êtes toujours vigilant et à ce que vous voyez, à être toujours en train, un peu sur le qui-vive, il faut être toujours très alerte. Le fait de ne pas être entrepreneur, potentiellement, on peut...
Il y a
une facilité à déconnecter qui est probablement plus facile. Et à mon avis, le choix, il repose aussi beaucoup là-dessus. Après, la personnalité, il y a des gens en entreprise qui sont absolument brillantissimes, hyper ouverts, qui font avancer les choses... il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour ça, je pense.
Est-ce que vous pensez que tout le monde est fait pour être entrepreneur ou non ?
Probablement pas. Après, tout le monde peut essayer et j'invite tout le monde à vivre l'aventure parce que c'est cool. au moins une fois. Mais y a pas, tout le monde n'a pas non plus à avoir l'envie de ça. Je pense que c'est pas une fin en soi dans la vie. Honnêtement, d'être entrepreneur, c'est super de moi, je suis très, très heureux de ma vie. Mais de m'auto-gérer. Mais je pense que ça convient plus ou moins à certaines personnes. Et il faut de tout, vraiment.
Est-ce que vous avez des conseils que vous donneriez justement à quelqu'un qui hésite à se lancer?
Ouais, alors déjà, le conseil que je peux donner, c'est Sébastien Delafont, de Meilleurs Agents, qui me l'avait donné. Il m'avait dit, écoute, si tu veux monter ta boîte, fais-le le plus tôt possible. Ouais. Parce que au moins, t'as rien à perdre à ce moment-là. Et c'est vrai que le jour où vous avez des gosses, une carrière, un bon salaire, aller tout lâcher pour prendre des risques de zéro, c'est parfois un petit peu plus dur. Alors quelqu'un m'a dit aussi récemment, ouais, mais d'un autre côté, ton truc là, c'est débile parce que si tu le fais plus tard, t'as plus d'expérience et tu fais moins de conneries. Bon, mais je pense quand
ça
même...
Ça se vaut. Ça,
voilà, il y a un débat. Mais, oh. mais quand même, je pense que le faire le plus tôt et se dire que dans le fond, si on prend un peu de recul, on n'a pas grand-chose à perdre. Parce que dans tous les cas, on va apprendre énormément. Ouais. Je pense que ça vaut le coup. Et pas surdramatiser. Ouais. Dans le fond, il faut le prendre comme une expérience, comme une aventure. Ouais. Le vivre à fond, à 200%, si on a l'envie, il faut le tenter. Et c'est pas la fin du monde si ça marche pas. Il faut juste aller au bout et faire. Et avoir l'état, la disponibilité et l'envie de le faire à fond.
Après, c'est sûr que c'est plus facile de sortir de sa zone de confort quand on est seul, pas marié, sans enfant. Quand on passe la trentaine, 40 ans, qu'on commence à avoir des enfants, voilà, c'est un peu plus,
compliqué. C'est sûr, ouais. Pour une première, ouais, c'est peut-être, ouais, sûrement.
Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, des erreurs, que même si on apprend de ses erreurs et qu'il faut en faire justement dans ce milieu-là, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, que vous auriez faites vraiment différemment?
Je sais pas si je regrette parce que en fait quand vous faites un choix au moment où ce choix se pose a priori vous faites toujours le meilleur choix compte tenu des éléments que vous avez pour le faire donc vous savez pas comment l'histoire s'est écrite a priori donc c'est toujours que voilà. mais je pense que alors j'ai beaucoup on a beaucoup 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 appris par ça mais probablement qu'au début on a un peu trop bootstrappé on a voulu probablement un peu tout faire par nous-mêmes. Et mon conseil, c'est dès que vous validez votre projet, dès que vous validez votre idée, votre business plan, que vous savez que vous voulez y aller, que vous voulez y aller, entourez-vous des personnes les plus expérimentées, capables possibles. Et si vous n'avez pas les moyens, il y a des solutions pour ça, c'est le financement. Nous, on a beaucoup beaucoup travaillé en auto, par la croissance organique. Mais je pense que une bonne façon de gagner du temps, c'est de s'entourer des personnes qui ont de l'expérience, parce que vous le voulez ou non, ça fait la différence. Quelqu'un qui l'a fait, qui a 5, 10, 15 ans, il apportera plus que ce que vous pouvez imaginer a priori.
Il ne faut pas avoir d'ego et se dire, mince, je suis moins expérimenté.
Exactement. Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir d'ego et que la débrouillardise a une limite et qu'il faut savoir s'entourer de la bonne équipe pour aller au bout de son ambition et mettre une ambition qui est élevé. Il faut viser haut et pour viser haut, il faut être en équipe. Vous ne pourrez pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas le faire avec une petite équipe ou trop junior. Donc il faut vous entourer des bonnes personnes. Et à la fin, un projet, c'est quand même l'équipe, c'est quand même des décisions. Mmh. Donc c'est de l'humain.
Ah, c'était Henry Ford qui disait que l'homme le plus malin était celui qui savait s'entourer de plus intelligents et plus expérimentés que lui, justement pour faire en sorte que son projet marche.
J'aimerais bien avoir la même évolution qu'Harry Ford grâce à cette phrase.
Mais c'est ce qu'il ce qu'il a fait. J'ai lu un livre sur lui. Ouais. Donc oui c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est aussi compliqué de aussi quand on crée quelque chose, c'est son bébé au début. C'est compliqué de vouloir déléguer. Est-ce que ça a été
En fait, c'est compliqué de déléguer, sauf si au lieu de déléguer, en fait, vous partez du principe que vous apportez un savoir et une expertise que vous n'avez pas et que vous l'acceptez, que cette expertise, elle est évidente. Ouais. Et donc là, en fait, c'est plus de la délégation où vous allez être juste dans un micromanagement, où en fait, je vais juste prendre quelqu'un pour déléguer. Et oui, il y a des chances qu'a priori, vous connaissez bien le job et peut-être mieux que... C'est votre bébé, donc vous risquez de le faire peut-être de façon plus aisée que la personne à qui vous déléguez, au moins à court terme. Par contre, si vous dites non, en fait, je prends quelqu'un pour m'élever et quelqu'un qui va insuffler une culture, une vision et quelque chose qu'en fait, moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas parce que c'est juste pas mon job de tout faire et de tout savoir, a priori, ça change un peu la perspective. Et en fait, il faut garder en tête aussi que à moyen long terme, l'entrepreneur, c'est un chef d'entreprise et son rôle, c'est le pilotage. En fait, c'est de faire travailler des hommes ensemble pour atteindre pour conduire et vivre une vision, une mission.
Oui, c'est le capitaine en fait.
Oui, c'est un capitaine de navire. Donc il faut savoir pendant une phase de croissance aussi rester dans ce rôle.
Merci infiniment, Lucien Derry. Je rappelle que vous êtes CTO et cofondateur de Digit Event. Merci d'être venu sur le plateau d'Objectif Startup.
Merci à vous. À très bientôt.
À bientôt.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.